sur CJMD 96.9. J'ai le grand plaisir de m'entretenir avec une des légendes radiophoniques dans les années 70-80, un gars qui a œuvré à CFLS 92, plus particulièrement le matin. On parle avec Roger T. Drolet dans l'émission Les Salles du Français. Roger, ça va bien?
Bonjour Alain. Très bien, très bien, très bien. Merci.
Excellent. Roger, c'est un plaisir de te recevoir à cette émission spéciale.
Ben, c'est à moi que ça fait plaisir, en fait. C'est sûr, c'est toujours agréable d'expliquer qui on est, ce qu'on fait et pourquoi.
Absolument. Et tu as une longue feuille de route, évidemment, en communication, parce qu'évidemment, on t'a connu à CFLS, CJRP aussi, je pense que tu as fait.
Oui, j'ai eu la chance, moi, contrairement à beaucoup d'autres collègues, je dirais presque la majorité des gens avec qui j'ai travaillé, qui étaient surtout des gars en passant. Hein. Il y avait moins de femmes à l'époque à la radio.
C'est vrai.
Je sais pas la pondération aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas, c'était surtout des gars. Des jeunes gars, il y en avait quelques plus vieux, mais en général, là, c'était des gens dans la jeune vingtaine, et moi, c'est tout à fait ça. Et moi, quand j'ai décidé de me lancer, d'offrir mes services, hein, comme tout le monde, quand on n'est pas connu, on doit offrir nos services aux antennes qui sont dans notre région où on habite, généralement. J'ai eu la chance de... J'ai fait évidemment 2-3 stations avant que CJRP me recrute, mais je suis resté dans ma région natale, en fait, parce que moi, je suis né dans la ville de Québec, mais mes parents ont acheté un bungalow à Loretteville, dans le début des années 60, et je me suis retrouvé là, petit gars, et j'ai fait mes études là-bas, mes primaires et secondaires. Et après ça, j'ai commencé à l'âge de 15-16 ans à me demander ce que je ferais dans la vie. Et moi, comme j'étais enfant unique jusqu'à l'âge de 6 ans, là, mes 6 premières années de vie, j'étais tout seul dans la maison avec ma mère. Mon père allait travailler, puis ma mère était à la maison, comme c'était à l'époque très courant.
Absolument.
Les mamans ne travaillaient pas. Et j'écoutais la radio, parce que c'était mon divertissement, moi. La musique et la radio et l'information et d'entendre des gens parler à la radio, c'est ma première école, si on veut. Avant d'être inscrit en première année, là, on se comprend, là. Alors, de 2-3 ans jusqu'à 6 ans, inclusivement, ma compagne de vie, c'était ma mère à la maison et la radio.
Et tu écoutais quelle radio à cette époque?
Là c'est là où tu fais bien de poser la question, parce que elle écoutait Radio-Canada, essentiellement.
OK.
Bon, parce que la programmation, ma mère avait pas une formation académique très considérable, parce que les jeunes femmes de cet âge-là, qu'est-ce qu'ils faisaient aussitôt qu'ils pouvaient? Ben, ils se mariaient. Hein?
Absolument.
C'était la règle. Alors, on se trouvait un mari, puis on faisait des enfants. Alors, elle a fait comme les autres. Et elle passait sa journée seule à la maison. Donc, elle écoutait la radio, et son choix, comme elle avait eu une petite initiation à la musique dans ses très jeunes années à elle, là, on parle des années 50, autour de ça, elle s'intéressait à la musique classique et à la musique populaire chantée, mais... à tendance francophone, essentiellement.
Parfait.
Alors là, moi, qu'est-ce que j'écoutais à Radio-Canada à cette époque-là? Il y avait des émissions parlées, mais il y avait des émissions musicales aussi, et on faisait jouer de la chanson française.
Oui.
Beaucoup. J'aimais ça parce que, évidemment, on comprenait les paroles, et puis ça élargissait notre vocabulaire aussi, bien que des fois, on comprenait pas le sens des paroles.
Oui, les Français, bien souvent, ont des expressions...
Une question d'accent, mais une question de vocabulaire aussi, parce que on sait bien que il y a un paquet d'expressions qu'on n'emploie pas ici. C'est encore le cas, mais c'était le cas aussi dans les années 60.
Oui.
Alors, j'écoutais ça, puis j'aimais beaucoup. Puis, tu sais, quand on dit là que les jeunes enfants, les enfants, au départ, je sais pas si c'est comme ça maintenant, parce que les jeunes n'écoutent plus tellement la radio dans des petites boîtes carrées qu'on mettait sur le frigo ou sur la table de cuisine, là. Mais à l'époque, évidemment, on avait l'impression, c'était déjà très magique pour moi d'entendre quelqu'un parler et chanter quand c'était des enregistrements qu'on faisait jouer, là. On pensait qu'il y avait des petits bonhommes dans les appareils radio.
Effectivement, oui. Tu sais, oui, hein? Effectivement.
C'était magique, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, le fait d'avoir une petite boîte là dans une pièce de maison, puis que, bon, on ouvrait, on fermait le volume, et puis il se passait quelque chose. Alors, une partie de mon éducation, si on veut, primaire, là, vraiment avant d'aller à l'école, je le répète, mais c'était d'écouter la radio, et comme j'écoutais des gens qui parlaient Radio-Canada, soit de l'information, ou peu importe le sujet. En fait, j'écoutais plus la musique, à vrai dire, parce que je comprenais pas toujours ce qu'on voulait expliquer dans les bulletins de nouvelles ou dans des entrevues ou des trucs comme ça. Alors, ça a été la première chose. Et comme j'avais commencé à le dire, ben j'étais, au moment où j'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce que j'allais faire dans la vie, ben évidemment, comme la télévision aussi me nourrissait beaucoup, parce qu'il y avait non seulement des émissions pour enfants, mais j'écoutais des émissions pour adultes aussi, ben je me disais, en moi-même, sans vraiment me l'avouer, que peut-être qu'un jour, j'aimerais faire ce travail-là, ce métier-là. Parce que c'est la communication, en fait, hein? C'est essentiellement ça, c'est le fait de pouvoir parler de ce qu'on connaît et de partager ça avec le plus large public possible.
Oui, effectivement, c'est sûr.
Alors, mais moi, j'ai donc eu la chance d'être embauché par une entreprise radiophonique, une station de radio, qui était à Québec, alors que la plupart, je le disais tantôt, mais la très grande majorité des gens avec qui j'ai travaillé par la suite,
eux
ont été obligés de s'exiler
en province.
En province, c'est ça. Alors, de la plus petite ville à la plus grande ville, mais en dehors de Montréal et de Québec.
C'est ça, oui.
Mais moi, bon, j'habitais à quand je prenais l'autobus de chez moi pour aller à CJRP de Loretteville, bien évidemment, ça prenait quand même une heure pour me rendre, mais c'était fantastique de pouvoir avoir les portes ouvertes de cette... Parce que de plus vieux, ben j'écoutais aussi... Ça s'est appelé CJLR, hein, avant de s'appeler CJRP.
Ah, là, tu m'apprends quelque chose vraiment.
Ah, bien, vois-tu, alors, CJLR a été la troisième station de radio AM, bien entendu, créée à Québec, après CHRC et CKCV, et Radio-Canada, si on inclut la radio publique.
Okay.
Vois-tu? Oui. Alors, c'était la quatrième. Mais assez rapidement, comme il n'y en avait pas beaucoup et que le marché était plus petit, évidemment, il y avait moins de personnes qui habitaient la grande région de Québec et celle de Lévis, ben l'auditoire se partageait entre ces quatre radios-là. Mais j'étais à CJRP en entrant là en 1972. C'était merveilleux, c'était fantastique parce que c'était déjà une grosse radio.
Il y avait déjà des vedettes, je pense, à l'époque.
Ben oui, il y avait des vedettes. Il y avait évidemment des gens qui avaient travaillé dans l'époque où ça s'appelait CJLR, qui ont resté là. Quand ça a été acheté par Radio Mutuelle, je crois que c'est en 1969, ben là, évidemment, ils ont intégré d'autres animateurs, puis c'est assez stable, la programmation, mais il faut se rappeler aussi que dans ces années-là, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre ça, c'est que les émissions étaient partagées en blocs. Alors, il y avait évidemment l'émission du matin qui reliait beaucoup d'auditeurs parce que les gens se lèvent à cette heure-là. En général, ils déjeunent, ils vont travailler. Mais par la suite, ben, en mi-avant-midi, de 9 à midi, en gros, là, il y avait une émission qui... Puis c'était la même chose pour la plupart des stations. Il y avait de la compétition parce que c'était pas exactement le même style, puis on faisait pas jouer exactement la même musique. Mais en gros, de 9 à midi, c'était une émission plutôt destinée aux femmes à la maison.
Oui, effectivement, on appelait ça le mid-morning, ça se peut?
C'est ça. Mais évidemment, qu'est-ce qui écoutait la radio dans ces heures-là? Les hommes, pour la plupart, étaient au travail, puis c'est pas certain qu'on les autorisait à écouter la radio sur le lieu de travail. Puis les enfants étaient à l'école. Donc, qui était le public cible de 9 à midi?
Les
C'était
femmes.
La femme à la maison. Un peu la même chose, pardon, pour le début d'après-midi, hein, de midi à 15 heures. Ben, c'était aussi essentiellement les femmes qui étaient à la maison, qui étaient le public cible. Par la suite, ben, à partir de 15 à 18 heures, ben, c'était le retour à la maison. C'est resté comme ça, mais alors, à l'époque, le public cible était fragmenté plus que maintenant.
Oui, effectivement, oui.
Parce que maintenant, ben, on écoute la radio au travail, et puis il y a autant d'hommes que de femmes qui travaillent. Alors, c'est mélangé.
C'est très partagé, effectivement.
Voilà. Alors, je suis arrivé, donc, en 72 à CJRP, et bien entendu, mais je suis arrivé par le biais de l'information.
Ah, okay.
Moi, quand c'est Jean-Luc Vachon qui m'a donné ma chance dans le métier, c'est un beauceron qui était bien connu, les familles des Vachons, là, dans ce coin-là, il y en a beaucoup. Je ne sais pas s'il était de mèche avec la famille qui avait fait des gâteaux, mais en tout cas, c'était dans la hiérarchie là, locale, régionale, c'était les Vachons, c'était des gens bien connus,
oui,
bien
absolument.
Appréciés. Et Jean-Luc était journaliste à CJLR d'abord, où il était animateur également, puis par la suite, il a grimpé au titre de directeur d'information. Et c'est lui qui m'a engagé à l'été 72, mais il m'a engagé, entendons-nous. Je suis arrivé au moment où il y a quelqu'un qui avait été mis dehors.
Ça n'arrivait pas pourtant à l'époque, écoute.
Hein? C'est souvent ça. Alors, il congédiait quelqu'un, mais là, il fallait qu'il le remplace. Alors, moi, je suis arrivé au bon moment, et Jean-Luc m'a fait une entrevue, et il m'a dit, écoute, est-ce que tu as de l'expérience? Ben, j'ai dit non, j'ai pas d'expérience. Par contre, c'est l'année où je me suis inscrit à l'Université Laval, parce que j'avais fait mon cégep à Garneau en sciences humaines, okay. Et puis j'avais choisi une option à l'université pour entrer à l'université à l'été 72 pour entrer à l'automne, là. Et je m'étais inscrit en communication-journalisme.
Ce qui était très rare, il faut dire aux gens que les animateurs qui ont fait l'université, il n'y en a pas tant. La plupart des gens vont penser animateur radio, ils englobent ça avec l'université, mais c'est dans la plupart des cas, c'est assez restreint, je te dirais, en quantité. Ça se peut, parce que tu en as connu plusieurs
oui.
qui ont appris sur le tas, permettez-nous l'expression.
Oui, oui.
Et, ben, avec,
oui, vas-y.
Avec ben, le collège radio, ben, à l'époque, c'était le CART, le C-A-R-T,
oui.
qui était deux frères, qui les Gagnons, qui, eux, étaient vraiment cadrés Radio-Canada. Donc, as-tu fait le CART, non? T'as rentré
ben,
direct
non,
à la radio, évidemment.
Ben, j'allais en parler. Non, mais c'est pas parce que je voulais pas, c'est parce que j'avais pas l'argent qu'il fallait. Alors, puis j'en avais parlé à mon père, puis mon père était pas un... Tu sais, cette génération-là d'hommes, il parlait pas beaucoup, hein. Et quand il émettait des opinions, des fois, c'était très tranché.
Oui, absolument.
Alors, j'avais dit à mon père un soir, je me souviens très bien de cette scène-là. Écoute, je sors de ma chambre, puis je m'en vais. Mon père était dans le salon en train de lire son journal ou écouter la télé, je sais pas. Puis je dis, écoute, papa... J'aimerais ça, moi. Il y a une petite école là qui forme des animateurs pour la radio, là, ça s'appelle le CART, et puis j'aimerais ça. Il m'a regardé un peu de travers en disant...
Il est pas normal.
Comme je vais faire une comparaison qui est un peu idiote, là, mais tu sais, John Lennon, il s'est déjà fait dire par sa mère, parce que son père était parti, mais comment tu vas faire pour gagner ta vie en jouant de la musique? Tu sais, John Lennon qui dit, bon, alors moi, j'étais déçu, évidemment, de me faire dire par mon père, t'as pas d'avenir en faisant ça. Puis, le fait que j'avais pas l'argent qu'il fallait pour payer le cours, ben j'ai passé outre, complètement. Ce qui m'a pas empêché de garder ça en tête, puis de me demander de quelle façon est-ce que je ferais bien pour me retrouver là un jour.
Mais tu es rentré de la meilleure façon, pas toujours évidente. Le timing était là, comme tu dis, et tout, mais au collège des annonceurs de radio-télévision, à l'époque, il n'y avait pratiquement pas de pratique. Et moi, j'ai suivi le cours et je te dirais, il y avait un studio, c'était sur la rue Saint-Louis, une vieille maison et tout, et en bas, le petit studio minuscule, on allait au studio deux fois dans tout le cours. Donc, c'était beaucoup dans une salle de classe avec phonétique, diction. Il y avait Denise Verville qui était là dans le temps. Il faisait beaucoup de publicité Tanguay à l'époque. C'est pas Jean-Marc. C'est avant Jean-Marc, c'était lui, quelque chose. Et les frères Gagnon, évidemment. Donc, mais en rentrant directement à CJRP comme ça, ben c'est super. Puis en plus, si tu faisais des informations, ça devait être quand même de jour, évidemment.
Oui, oui. Alors, regarde bien. Alors, je veux revenir sur une chose, c'est qu'avant même de mettre les pieds à CJRP, j'avais quand même offert mes services parce que j'ai un de mes bons amis à moi qui, lui aussi, voulait se diriger en journalisme. Il m'a dit, Roger, écoute, moi, je pensais que c'était impossible pour moi, tu comprends, de mettre les pieds puis d'être embauché dans une station de radio. À l'époque, là, j'avais 18 ans. Je me disais, puis j'ai personne, parce que souvent, à l'époque, c'est peut-être vrai encore un petit peu, mais les gens, c'est parce que leurs parents travaillaient déjà dans les médias ou, tu sais, il y avait des connivences comme ça, puis c'était correct, là. Quand t'as pas de talent, tu resteras pas longtemps. Si t'en as un peu, ben, tu vas faire ta place. Et je m'étais fait un petit CV. J'avais dit à mon copain, écoute, je n'ai pas de CV, j'ai rien à mettre dessus. J'ai travaillé un peu ici et là, des petites jobines, mais j'ai jamais. Comment je vais faire pour me faire un CV? À l'époque, j'avais rien à mettre dessus. Il m'a dit, fais rien, mets ce que tu veux là-dessus, puis présente-toi dans les stations de radio. Puis donne ton papier, puis t'as la chance avec toi ce jour-là, peut-être qu'ils vont te dire, on va t'essayer. Alors, j'ai d'abord rédigé quelque chose, je me souviens pas qu'est-ce que j'avais mis sur le papier, mais une chose est certaine, c'est que je me suis présenté à CKCV, qui était là, dans l'édifice à Place Dieuville, en haut du Capitole.
Au dernier étage, pratiquement.
C'est ça. Bon, alors là, j'avais pas eu... Mais j'avais une copine à moi qui travaillait déjà là comme réceptionniste, mais ça avait rien fait. Il n'y a pas de résultat. Alors, j'attends quelques semaines. Là, je me dis, bon, il n'y a rien à faire là. Ensuite, on est en 71 à ce moment-là. Il y a LS Radio qui fait de la musique progressive avec Tran et les autres là, comment s'appelait-il?
Guy Aubry,
les autres
peut-être.
Animateurs communs.
C'était avant Guy, je pense, hein?
Pardon?
Guy Aubry, c'était avant Guy Aubry?
Ah ben non, c'était avant Guy, parce que c'est Guy qui m'a fait, on y reviendra tantôt, mais non, c'était l'autre époque, là. C'était vraiment...
LS124, je pense, avant de devenir 92.
Oui, c'était, mais nous-mêmes, Guy et moi, on a travaillé à la fréquence 124. Mais,
OK.
Bon, mais là, je suis pas là, je suis en 71, et je me souviens plus du nom du directeur des programmes, mais j'étais allé le rencontrer dans la maison où était CFLS à l'époque, là. Et puis, il m'a regardé, il m'a interviewé, puis bon, il n'y a pas eu de suite non plus. Alors là, on tombe en 72, là, ben je termine mon cégep, et puis je m'inscris à l'Université Laval en communication, journalisme, comme je te disais tout à l'heure. Et là, ben je tombe sur Jean-Luc Vachon, qui, lui, m'a donné ma chance à l'information. Alors, il m'a dit, écoute, oui, ça m'intéresse, ta candidature, t'as l'air sérieux, t'as l'air... à vouloir vraiment faire carrière et je vais te proposer de faire un stage à l'été 72, mais on ne peut pas te payer, par exemple. C'est un stage gratuit, là. Alors, tu vas faire l'été au complet, tu vas tranquillement, pas vite, t'initier au métier de journaliste et de lecteur de nouvelles, parce que évidemment, ça faisait partie du travail. Donc, j'ai fait ça l'été 72, et au moment où mon stage allait se terminer, ben Jean-Luc m'a convoqué un matin en me disant, écoute, oui, je t'engage, alors tu feras des remplacements et tu travailleras la fin de semaine et ces choses-là en information. Par la suite, ben, j'ai montré un intérêt pour être à l'animation aussi. Alors, j'ai fait pendant 72 à 74, là, un peu les deux, à la fois comme journaliste et je faisais pas de terrain, par contre. J'étais à la salle de nouvelles et je compilais les informations, je les rédigeais, puis je les livrais en ondes. Mais tout en faisant un peu d'animation aussi, puis ça commence toujours par la nuit.
Oui.
Alors, j'ai fait de l'animation. Et souvent, je faisais un chiffre le matin à l'information, puis le midi, j'étais en onde pour l'après-midi à l'animation. Tu sais, ça m'est arrivé souvent, mais c'était à titre de remplaçant à ce moment-là.
Rien de régulier, rien de qui était rémunéré.
Ben, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Jean-Luc a considéré que mon stage était fini, ben là, il dit « on t'engage ». Donc, ils ont commencé à me payer à ce moment-là. Mais je te donne en mille, dans le mille, à quel salaire tu penses que je pouvais avoir là en entrant à l'été, à l'automne 72, à CJRP? Quel salaire horaire pouvais-je avoir, d'après toi?
Mais je te dirais peut-être hebdomadaire 150.
Je vais te demander de donner un chiffre à l'heure.
À l'heure? Oh boy! Cinq? Qui était déjà...
$2.
Hein?
$2 l'heure.
Ben voyons donc.
Mais c'était le plus bas qu'on pouvait avoir, tu comprends? J'arrivais, j'avais aucune expérience, j'avais pas travaillé ailleurs, et j'étais surnuméraire.
Mm-hmm.
Puis on n'était pas syndiqué.
Non, à l'époque,
alors,
non.
C'était $2 l'heure. Mais dans ces années-là, l'inflation a été assez brutale. Hein? Alors, si on se souvient, le premier choc du pétrole là, à l'international, c'est 74. Alors, il y a eu une inflation galopante et là, les salaires ont augmenté rapidement. Mais rapidement, ça ne veut pas dire de doubler aux 6 mois, là. Ça veut dire quand même progressivement. Et là, bon, on s'est retrouvé avec des salaires. Mais je me souviens qu'en 74, fin 74, quand j'ai quitté CJRP, j'avais un salaire hebdomadaire d'à peu près $130 pour à peu près 30 heures de travail.
Oui, OK.
Mais c'est normal, écoute,
c'était l'époque.
Ben oui, les gros salaires à l'époque, là, je parle pas des animateurs à la radio, mais je parle du travailleur
général,
moyen, là, c'était peut-être $200 par semaine, là, quelque chose comme ça.
C'est vrai. C'est vrai.
Donc, c'était acceptable. Puis de toute manière, moi, j'avais pas, quand je suis arrivé à CJRP, j'avais pas d'appartement, j'avais pas de voiture. Donc, les frais étaient limités. Là. J'avais pas à payer, j'avais pas de famille, j'avais pas d'enfants, Alors, c'était acceptable. Puis en plus, ben, j'ai commencé à faire aussi, je me suis lié d'amitié assez rapidement avec quelques animateurs sur place ou quelques personnes de l'information. Et un de mes bons amis, entre autres, ça a été Christian Thibault, que j'avais rencontré à l'Université Laval, parce que je travaillais aussi, tu dois savoir que la première station radio communautaire de langue française en Amérique du Nord, CCKRL, et comme j'avais un pied à l'Université Laval, puisque je suivais mon cours en journalisme, j'ai mis les pieds là. Et j'ai travaillé aussi comme animateur, en même temps, bénévole à CKRL.
Ah.
Et puis, il y avait Christian Thibault aussi qui, évidemment, aussitôt qu'il a su qu'il y avait une station radio qui se créait sur le campus, ben Christian a mis les pieds là, puis c'est comme ça qu'on a fraternisé et je suis resté très ami avec Christian.
Ben c'est écoute, la radio, on pourrait en parler tellement, mais tellement longtemps. On est deux passionnés et d'ailleurs, je dois dire que tu as été, Roger, un modèle pour beaucoup d'animateurs parce que du côté de Québec, on y reviendra, mais CFLS a été vraiment la référence pour les jeunes.
Oui, ben oui, forcément, avec le format musical qu'on avait, c'était voulu là d'attirer les jeunes, qui étaient très nombreux à l'époque là. Tu sais,
oui.
Faut dire que c'était un public cible de choix sans jeu de mots, pour les jeunes, hein, j'allais dire 15 à 25, 30 ans, là, c'était vraiment le public cible. Hein.
Absolument, parce que Roger, tu as également mis sur place, tu as œuvré dans le milieu des discos mobiles. Pas toi nécessairement, mais comme animateur, tu as peut-être fait quelques événements, mais à la base, c'est toi qui a parti Music Concept, CFLS, entre autres.
Oui, ben ça, c'est-à-dire que c'est une demande qu'on avait. Hein? Les gens appelaient, avec le format musical qu'on avait, on s'est aperçu que Guy Aubry et moi, parce que c'est Guy, là, j'ai sauté cette étape-là, mais quand je suis parti de CJRP, Guy, avec qui j'avais travaillé à CJRP, qui est parti de la station à peu près au même moment que moi pour des raisons que je n'expliquerai pas ici parce qu'on s'embarquait dans un autre discours. Là,
un autre 30 minutes facile.
Un autre 30 minutes. Guy est parti et lui, il s'est dirigé vers CFLS et aussitôt qu'il est arrivé là-bas, il s'est fait nommer directeur des programmes et il m'a appelé tout de suite en me disant « Rog, faut que tu viennes travailler avec moi ». Voyons, écoute, viens, je vais te donner le samedi, le dimanche après-midi. Tu choisis ton choix musical et le tien et tu fais jouer ce que tu veux, de la musique anglophone, de la musique francophone. Alors, les deux gros chiffres de fin de semaine, tu comprends, je ne pouvais pas refuser et j'ai accepté de traverser le pont.
Ça valait la peine.
Ça valait la peine, mais on ne pouvait pas, à ce moment-là, on est en, novembre 74, parce que tout ça s'est passé sur un court laps de temps, hein. On a l'impression, on compte ça, puis il a dû se passer des années. Et non, tout allait vite à cette époque-là, et le monde de la radio était en effervescence totale, là, parce qu'on voyait poindre les FM très tranquillement sur le marché américain. On se disait, waouh, il y a une qualité de son, là, c'est incroyable. Alors, il faudrait un jour diffuser de la musique de cette façon-là, ça serait merveilleux. Mais on est encore au M, et en plus, à CFLS, on est à un wattage, on couvrait à peine la grande région de Lévis, puis un peu de la Rive-Nord aussi, avec on se rendait peut-être à Valcartier, là, mais c'est maximum.
Mais tu te souviens du... écoute, Guy Aubry nous a parlé, parce que Guy est un chum qu'on a en commun, évidemment, donc dans nos spéciaux CFLS que tu as participé, Guy se fait un plaisir de dire « CFLS, Lévis, l'Ozon quand le son est bon ».
Donc, oui, oui, mais je suis obligé de dire à mon ami Guy qu'il a emprunté cette expression-là à Michel Tran.
Ah oui? Ça, oui. Je savais pas, tu vois.
Tu savais pas ça, hein?
Non, non.
Ah oui. Ça, c'est un gag de Michel Tran qui a été, d'ailleurs, un phare à CFLS, parce que lui aussi s'est trouvé là. Dans les années, là, je te disais que j'étais allé rencontrer le directeur des programmes, dont j'oublie le nom, ben, il y a eu un après ce directeur des programmes-là, et là, les jeunes, dont faisaient partie Michel Tran, Gilles Delalonde et d'autres, ils sont retrouvés là, et eux, ils avaient carte blanche, vraiment. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Ils faisaient jouer de la musique rock, et ils fumaient du pot. Alors,
c'était l'époque. C'était vraiment l'époque.
C'est ça. Michel a pris le leadership de cette équipe-là. Et Michel Tran, que j'ai croisé, mais à peine, malheureusement, parce que c'est un gars extraordinairement intelligent et un gars de radio qui avait travaillé avant à CJMS à Montréal et tout. Il s'est retrouvé à CFLS et puis il a fait ce qu'il voulait, vraiment. Mais c'est lui, je crois, là, je suis à peu près certain que c'est lui qui a créé l'expression que tu viens de donner, CFLS, Lévis, l'Ozon quand le vent est bon.
C'est ça, absolument.
Parce que ça, c'est un gars qui est basé sur le fait que l'antenne ne couvrait pas grand territoire, hein, c'était vraiment... très réduit.
Oui, puis à l'époque, nous, on a l'avantage ici d'être écoutés partout via l'application web. Donc, on les écoute en France, on les écoute de partout. Mais à l'époque, c'était AM, that's it. C'était vraiment, vraiment...
Oui, puis avec un petit territoire, hein, faut dire aux auditeurs que le wattage de l'émetteur faisait en sorte, puis ça, c'était dû aux licences qui étaient données par le CRTC,
oui,
qui le sont toujours, mais à l'époque, ben c'était le territoire pour lequel tu obtiens la licence, et on était très surveillé là-dessus. Si les émetteurs étaient, on boostait un peu, ça ne fonctionnait pas, parce que les compétiteurs, évidemment, se plaignaient du fait que telle radio doit pas empiéter sur mon territoire à moi. Les radios de Québec étaient très jaloux. Ça a pris des années avant que CJRP ait 50 000 watts AM.
Oui,
c'était CHRC qui avait 50 000 watts AM. Ils étaient très frileux de cet apanage-là qu'ils avaient sur une plus vaste région.
Effectivement.
Excellent comme ça. Hey, alors, amuse-toi bien d'ici là.
Merci mille fois et on se reparle, mon chum.
Ciao. Bye.
Merci. Bye-bye.